Bonsoir. Nous allons faire deux lectures. La première dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, où nous voyons la bénédiction qui arrive dans un groupe d'hommes où Jésus est avec eux. Marc, chapitre 4, verset 35. C'est un merveilleux texte qui nous montre vraiment le privilège d'avoir Jésus avec soi. Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent ?» Même le vent et la mer. Amen. C'est une question. Vous gardez le texte et nous allons lire dans le psaume 91. Ce psaume qui nous rappelle l'importance d'être dans le repos. Je ne sais pas si vous êtes dans le repos. En tous les cas, s'il y a une chose que vous pouvez obtenir ce soir, c'est le repos. C'est une grande bénédiction dans un monde difficile d'être dans le repos. C'est une des plus grandes bénédictions. Aujourd'hui, ça l'a toujours été, mais là, c'est encore plus flagrant. Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Il ordonnera à ses anges de te garder. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Dieu qui donne des ordres, Dieu qui conduit les choses, pour garder, pour protéger, pour donner de l'assurance à celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Quelle faveur! Et ce soir, cela nous est rappelé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on en a besoin. La vie, vous savez, la vie est faite de tempêtes. Est-ce que vous avez déjà traversé une tempête? Une, deux? Combien de fois avez-vous été secoué dans la maison? Au travail, dans la santé, dans l'église. Est-ce qu'on peut être secoué dans une église? Ben oui. Dans une situation de couple, avec un enfant qui a mal tourné. Il y a plein de situations. Moi, j'ai vu des couples, par exemple, qui voulaient des enfants et qui n'en ont pas eu. Ça a été une tempête. Ou il y en a qui en voulaient deux. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a eu 10 gosses. Ils en voulaient 2 ou 3, ils en ont eu 10. C'est une épreuve, c'est une bénédiction. Vous voyez, il y a des choses qui nous dépassent. Un enfant qui tourne mal, est-ce que ça peut être une épreuve? Bien oui, tant qu'on n'a pas d'enfant, on ne le sait pas. Mais un enfant qui tourne mal, ça peut être vraiment une tempête. Et Jésus qui conduit tout, qui dirige tout, permet des moments comme celui-ci. Et il veut que nous le sachions, mais il veut surtout que nous puissions en arriver à ce moment où nous dirons, oui, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas ce qu'on dirait ce soir si Dieu nous montrait dans l'invisible toutes les fois où un ange nous a gardés. Qu'est-ce que vous diriez? Toutes les fois où Dieu vous a protégés, toutes les fois où ce que nous avons lu s'est vraiment passé sans que nous nous en rendions compte. Là, dans une tempête, c'est un peu plus flagrant parce que on est dans quelque chose de physique quand on est secoué. Moi, j'ai traversé une fois une tempête quand j'étais à l'armée. Pour vous donner une idée, pour faire 240 km sur un bateau de guerre, on a mis 24 heures. 24 heures pour faire 240 km. Vous ne vous êtes pas si vous rendez compte comment la mer était secouée. Moi, je me suis posé des questions. Je n'étais pas chrétien et j'ai vraiment pensé que c'était ma dernière heure. Quand on vit une tempête, c'est drôle comme quand on lit un texte, ça prend un peu plus de valeur. C'est terrible quand on sait que notre vie peut d'un moment à l'autre basculer. Mais Dieu le permet. Il faut accepter. Alors c'est vrai que moi j'ai souvent entendu des prédications, même à des enterrements sur ce genre de texte, que la vie c'est comme un lac à traverser, on traverse de la naissance à la mort, et qu'il y a beaucoup de gens qui traversent le lac sans s'occuper de ce qu'il y a après. Est-ce qu'il y a après une éternité? Est-ce qu'il y a vraiment un paradis? Ou de quel côté je vais être lorsque je vais traverser le lac? Combien est la largeur de mon lac? Il y a des gens qui vivent 20 ans, ils traversent une partie du lac. Enfin, le lac, est-ce que vous pensez à l'éternité? Est-ce que ces textes-là ne sont pas également écrits pour nous montrer que Dieu est puissant, qu'il veut que nous soyons dans le repos? Ces textes-là nous prouvent aussi que Jésus permet des tempêtes, parce qu'il aurait pu empêcher la tempête. Est-ce que Dieu aurait pu dire, mon fils est sur le lac avec les 12 apôtres, il n'y aura pas de tempête? Oui, bien sûr que oui. Mais Dieu a permis qu'il y ait cette tempête. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous réfléchissions à l'éternité. Ils ont posé la question, tu t'inquiètes pas de ce que nous périssons? Oui, nous pouvons envisager le jour où nous allons passer de l'autre côté. Alors, qu'y a-t-il de l'autre côté? Qu'y a-t-il? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que quelqu'un dans la Bible nous a parlé de l'enfer? Est-ce que quelqu'un nous a parlé du paradis? Eh bien oui, celui qui vient des cieux. Il nous a parlé de l'éternité, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Peut-être que dans cette vie, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, mais si vous êtes là ce soir, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons dans notre cœur la pensée de l'éternité. Dieu l'a voulu. Dieu a fait comme ça, il a mis dans notre tête, dans notre cœur, cette pensée de l'éternité. C'est important. C'est pour ça qu'il y a plein d'églises sur la terre où les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que vous réfléchissez qu'une seconde après votre mort, vous allez vous retrouver soit dans le paradis, soit en enfer? Oui ou non? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Jésus parle de l'enfer? Oui, il parle de l'enfer d'une manière même qui fait réfléchir. Il n'y a que Jésus, je crois que sur les 12 fois où il parlait de la géhenne, Jésus en parle 11 fois. Il est parlé d'un lac de feu qui ne s'éteint pas, des vers. Il y a plein de choses sur l'enfer, c'est Jésus qui en parle. Il en parle pourquoi? Parce qu'il veut que nous sachions que notre vie est telle qu'elle sera, dans le sens où quand on traverse, hier soir j'ai pris 5 minutes, j'ai vu qu'il y avait une émission sur la Polynésie. Et comme j'aime la Polynésie, j'ai regardé, il y avait un gars qui traversait un lac justement, il pêchait l'espadon. Et ça me faisait penser à tous ceux qui traversent la vie et qui veulent tirer le meilleur de ce qu'il y a sur la vie. Tiens, on peut pêcher, on peut retirer plein de choses de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir plein de choses. Tiens, moi j'ai la vie à traverser, je la traverserai. Ce qu'il y a de l'autre côté, ça m'est égal. Mais moi au moins, je veux tirer profit de tout ce que la mer peut me donner. Et c'est vrai que ce matin, en préparant cette prédication, je pensais à ce pêcheur qui disait, voilà, ce qui est bien, c'est de retirer de la mer ce qu'elle peut nous donner. C'est vrai. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois que la vie doit nous amener à nous préparer à rencontrer Dieu. C'est pour ça que Jésus a voulu ces textes, et montrer qu'il est tout puissant. Montrer que ça vaut la peine qu'il soit avec nous. Si Jésus n'avait pas été au fait avec les 12, qu'est-ce que aurait été cette histoire? Un fait divers de plus? Est-ce qu'il y en a des gens qui meurent en mer? Est-ce qu'il y en a des embarcations qui coulent? Ben oui, on entend souvent ça. On l'entend même avec les réfugiés, combien ils se sont noyés. On entend, ça nous brise le cœur, ces gens qui souffrent. Et en plus, ils meurent en mer parce qu'il y a eu un peu de remue-ménage. Mais Jésus était là. Et je crois que ça vaut la peine, lorsque nous nous réunissons, que nous chantons ces cantiques, que nous nous retrouvons sous le regard de Dieu, je crois que ça vaut la peine de dire, mais est-ce que vraiment Jésus-Christ est dans ma vie? Est-ce qu'il est ce 13e homme qui parfois semble dormir? C'est vrai que Jésus dormait, alors que toute la Bible nous enseigne que Dieu ne sommeille ni ne dort, et que ses anges nous protègent. Voyons, on l'a lu. Et que si quelqu'un demeure en Dieu, il sera à l'abri. C'est merveilleux de savoir que toute notre vie, Dieu nous protégera. Quelle que soit la façon d'ailleurs dont on va mourir. Est-ce qu'il n'y a pas des morts bizarres dans la Bible? Vous avez vu comment est mort Jean-Baptiste? Vous trouvez, moi, chaque fois que je pense à la mort, enfin que je pense à des sujets sur la mort, je pense à Jean-Baptiste. Cet homme qui a été catalogué par le Seigneur Jésus comme étant le plus grand homme qui existait. Pourquoi? Parce qu'il a eu le mérite d'avoir le ministère de préparer la venue de Jésus-Christ. C'est beau de préparer la venue de Jésus-Christ. Eh bien, il est mort à cause d'une femme complètement débile et d'un roi complètement malade. Oui ou non? Il est mort décapité, il avait quoi, 31, 32 ans? Mais je crois que Dieu contrôlait tout. Votre vie, elle est entre les mains de Dieu. Alors l'avez-vous invité dans la barque? Est-ce que vous pouvez dire, oui, mais moi j'ai invité Jésus dans ma barque, il est avec moi? Parce qu'on peut être à l'église, vous savez, on peut être croyant, on peut se dire chrétien, et vivre dans une crainte continuelle. Et Jésus qui accepte bien sûr, qui a provoqué cette situation et qui va leur poser la question, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Est-ce que vous acceptez que Jésus vous pose des questions? Parce que bon, on n'est pas nombreux ce soir, ça facilite l'affaire dans le sens où il faut bien comprendre que Dieu parle à chacun. Est-ce que vous comprenez que toutes les questions que Jésus a posées, puisqu'elles sont dans la Bible, il te la pose? Pourquoi avez-vous si peur? Oui, tu peux être malmené. Et la vie est faite de tempêtes. La vie est faite de secousses. La vie est faite de moments où on dit, mais j'avais jamais prévu que ça tournerait comme ça. J'avais jamais prévu que ça, mes enfants deviendraient comme ils sont devenus. Ce matin, je lisais l'histoire de Roboam et de Jéroboam. Roboam, c'était le fils de Salomon. Et je peux vous dire qu'il a manqué de sagesse, lui. Pourtant, il avait un père qui était rempli de sagesse, puisque c'est l'homme qui a eu le plus de sagesse sur la surface de la terre. Et pourtant, lui n'avait aucune sagesse. Et on peut se dire, mais c'est pas possible. Être le fils de Salomon et ne avoir aucune sagesse, eh bien ouais. Je ne sais pas ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, mais vous avez la preuve dans ces textes que Jésus ne veut pas que vous ayez peur. Jésus aurait pu dire, vous avez bien fait de me réveiller. Est-ce que Jésus aurait pu leur dire un truc comme ça? Est-ce que Jésus aurait pu leur dire, vous avez bien fait de me réveiller parce qu'il n'y a que moi qui peux calmer la tempête? Oui. Et pourtant, non seulement il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Mais il leur dit, comment n'avez-vous point de foi? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment n'avez-vous point de foi? Eh bien ça veut dire que eux aussi auraient pu calmer la tempête. Comment? Par la foi. Puisque Jésus leur dit, comment n'avez-vous pas de foi? Alors, est-ce qu'ils ont bien fait de le réveiller? C'est des questions qu'il faut se poser aussi. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une prière? Est-ce que c'était une prière de foi? Qu'est-ce que c'était pour vous? C'est vrai? Ne t'inquiètes-tu pas? Est-ce que, franchement, je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus aurait pu mourir noyé ce jour-là? La question, elle est ridicule. Vous comprenez bien que Jésus ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il était venu sur la terre pour aller jusqu'au calvaire, pour mourir pour nos péchés. Donc, il le savait. Est-ce qu'il le savait que Jésus devait mourir sur la croix? Oui, donc il savait très bien. Il savait très bien. Quelque part, après, quand on a peur, ça vous est déjà arrivé d'avoir peur? Est-ce qu'on vous a déjà tiré dessus? Moi, ça m'est arrivé une fois. Mais vous voyez, à l'affaire d'une seconde, Vous avez tout un tas de choses qui se passent dans la tête. Et c'est bizarre comment tout de coup, on maîtrise plus certaines choses. Et là, ils ont eu peur, ils auraient pu se dire, mais non, ne vous inquiétez pas, Jésus ne veut pas mourir, il doit aller au calvaire, il l'a promis, donc il ne pouvait pas se noyer. Vous savez, votre vie, elle a un début, elle a une fin. Sur ton livre sont tous inscrits les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Il y a des livres dans le ciel, je ne sais pas comment ils sont, est-ce qu'ils sont comme les nôtres, j'en sais rien, c'est pas important. Mais la Bible parle de plein de livres. Dans le ciel, il y a un livre qui a déjà écrit votre vie. Le jour de votre naissance et le jour de votre mort. Dieu, dans sa grande bonté, a tout préparé à l'avance. Et il veut que vous lui fassiez confiance. Il veut que vous puissiez dire, Seigneur, il faut que tu sois dans ma barque. Parce que si le Seigneur est dans votre barque, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, comme on l'a lu, ni les terreurs de la nuit, ni la lune qui brille la nuit, etc., ou le soleil le jour. Vous n'avez rien à craindre. Il vous faut savoir juste, en sortant de cette église, est-ce que Jésus est dans ma barque? Est-ce que Jésus est avec moi? Est-ce qu'il reste avec moi? Est-ce que je l'ai mis dehors? Comme dans l'église de la Odyssée, où on voit des chrétiens qui ont réussi à mettre le Seigneur dehors de l'église. Je me tiens à la porte, alors qu'il était dedans. Et cette tiédeur et cette négligence fait qu'ils l'ont mis dehors. C'est terrible de mettre Jésus dehors. Il faut qu'il soit dedans, il faut qu'il soit dans ma vie. S'il est dans ma vie, je n'ai rien à craindre. Je dois avoir aucune crainte de la colère, parce que c'est vrai, j'ai parlé du paradis, j'ai parlé de l'enfer. Et on ira ou là, dans l'un ou dans l'autre. Il n'y a pas de lieu. Il y a des gens qui disent, écoute, on verra si c'est vrai, on verra après. Le problème de l'éternité, il faut s'en occuper avant. C'est sur la terre qu'un homme peut obtenir le pardon des péchés. Jésus l'a dit à ce paralytique, vous savez, sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Moi, combien de gens nous disent, mais si c'est vrai, on verra. On verra si c'est vrai, qu'est-ce que vous vous cassez la tête? Moi, je prends juste ce qui m'intéresse de la mer que je traverse. Non, vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. Et cette histoire, elle est là pour nous rappeler que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Qu'on peut lui dire, Seigneur, moi j'ai besoin de faire une expérience. Je ne veux pas aller à l'enfer. Est-ce qu'on peut échapper à l'enfer? Oui. Est-ce qu'on peut aller au paradis? Oui. Est-ce qu'il faut être vachement bien pour aller au paradis? Est-ce que Dieu invite les méchants et les bons? Est-ce que dans la Bible, Dieu invite tout le monde? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Il faut donner tout son argent à l'église? Non. Pour aller au ciel, il faut se repentir. Jésus nous a parlé du ciel. Comment Jésus nous a parlé du ciel? Jésus nous a parlé de l'enfer, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais Jésus nous a parlé du ciel, que même les portes de la Nouvelle Jérusalem, c'est des perles. Vous vous rendez compte? Une porte en perles. Vous avez vu des grosses perles? Les perles, elles font un centimètre. Les grosses perles, elles font un centimètre de diamètre. On dit que c'est énorme. Mais les portes de la Nouvelle Jérusalem, ce seront des perles. Les rues seront comment? Pavées de... Comment elles seront les rues? Elles seront pavées d'or. Enfin, quand vous voyez la description, après, bon, le matériel, c'est une chose, mais il nous est parlé qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de souffrance, plus rien, plus de douleur. C'est bien? Ben oui, c'est bien. On a besoin de ça. On a besoin de savoir qu'un jour, toutes ces choses seront terminées. On a besoin de savoir, oui, il faut traverser. Il faut traverser le lac, oui, il y a des grands tourbillons. Oui, je ne comprends pas. Oui, il y a des attaques. Oui, il y a des combats. Oui, à cause de moi. Oui, à cause des autres. Oui, il y a des manquements. Est-ce que vous avez des manquements? Oui, est-ce que vous avez des faiblesses? Oui, etc. Mais Dieu est là pour pallier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce qui est important, c'est que vous puissiez dire, oui, moi, ma barque, il y avait plein d'autres barques. Il s'est écrit, vous voyez, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, vu ce qui s'est passé, mais dans une barque, dans une, il y avait le Seigneur Jésus. Et vous devez ce soir dire, oui, je veux que Jésus soit dans ma vie. Je ne veux pas juste une réunion, pas le temps d'une expérience. Souvent, on a vu des gens, oh, si vous saviez, il y a 40 ans, moi j'ai vu des gens, Monsieur Hugo, je suis venu avec ma fille il y a 40 ans, j'ai été guéri, ma fille a été guérie. Vous êtes revenu à l'église et puis non. Mais je sais que Jésus guérit. Jésus n'est pas dans la barque. Ils ont fait une expérience un jour, un soir, un moment de leur vie, mais jamais ils n'ont introduit Jésus dans la barque. Et ça a toujours été comme ça. Jésus nous parle du ciel, Jésus nous parle de l'éternité, Jésus nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qu'on a fait de son message? Eh bien, les gens, ils ont préféré un criminel. Lorsque le choix a été proposé, mais qui voulez-vous épargner? Ils ont préféré sauver la vie à un criminel et crucifier le Seigneur Jésus. On pourrait se dire, mais c'est pas possible, avec ce que vous venez de dire. Eh bien, oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous choisirez? Est-ce que vous direz, Seigneur Jésus, je veux que tu sois dans ma barque jour et nuit. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est important. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Aujourd'hui, on s'assure pour tout. J'ai même entendu qu'il y avait des assurances qui assuraient au cas où votre assurance ne vous assurait pas. C'est vrai. Des assurances qui vous protègent pour les assureurs qui ne vous assurent pas ou qui vous assurent mal. Vous voyez jusqu'où on est arrivé. Et les gens, ils prévoient tout, tout. On pourrait parler de tout ce que les gens prévoient contre les incendies, contre les vols, contre tout. Mais mes frères et sœurs, il y a la plus grande assurance, c'est de savoir que Jésus vous attend de l'autre côté, qu'il a tout accompli au calvaire, que dans la barque, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du jour, n'ayez pas peur du lendemain. Jésus l'a dit, mais n'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire que Dieu a tout préparé. Restez avec lui, Seigneur, reste dans ma barque. Oui, des fois j'ai l'impression que tu dors, ça me contrarie énormément. Mais laissez-moi vous dire qu'au moment opportun, la Bible dit que Dieu vous soutiendra. Au moment opportun, laissez-le, il saura intervenir. Préoccupez-vous tout simplement de dire, Seigneur, je t'invite dans ma barque, par la foi. Parfois, on ne peut pas l'inviter, il n'est pas dans une ville sur la terre, il est au ciel, sur son trône de gloire, mais il est présent par le Saint-Esprit. Et à partir du moment où un homme dit, Seigneur, je te demande pardon, je veux vraiment que tu habites dans ma vie. Comment Jésus habite dans la vie? Eh bien, quand vous gardez la parole, quand vous obéissez à sa parole, quand vous priez, quand vous avez une vie d'église normale, quand vous obéissez, eh bien, Jésus est dans votre vie. C'est pas important d'avoir cette assurance? Est-ce que vous en êtes où de la traversée du lac, au fait? Vous en êtes où? Vous en êtes où? Vous allez me dire, mais moi, j'ai 40 ans, donc il me reste allez, 35 ans à vivre. Combien de temps il vous reste à vivre? Combien de temps il vous reste à vivre? D'après vous, combien de temps? Il y a des gens qui calculent. Ah, mais moi, je me convertirai. Oh, j'ai que 40 ans. Je me convertirai quand j'aurai payé ma maison. On entend de ces trucs. Je me convertirai quand je serai à la retraite. Quand je serai à la retraite, je serai vieux, je prendrai le temps de m'occuper de mon âme. Est-ce que c'est un calcul, ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas bien. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Regardez ces deux militaires qui sont morts. Ils ne pensaient pas, quelques heures avant, qu'ils allaient se faire tuer par des terroristes. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc, avoir Jésus dans sa barque, avoir Jésus comme sauveur, avoir Jésus comme Seigneur. Vous ne devez pas croire aux histoires de Jésus. Vous ne devez pas croire que Jésus est le Seigneur. Vous ne devez pas croire que Jésus juste est Dieu. Vous devez l'inviter dans votre maison, dans votre cœur. Vous devez lui dire, Seigneur, c'est une affaire sérieuse. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai été baptisé. Je me souviens d'un garçon qui était venu. Et je dis, mais comment vous êtes devenu chrétien? Des fois, nous, on pose la question aux gens qui viennent à l'église. Comment vous êtes devenu chrétien? Ben, j'ai pris le baptême. D'accord, mais comment vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur? J'ai pris le baptême. Et chaque fois que je lui posais une question, il me disait, j'ai pris le baptême. Je dis, mais est-ce que vraiment vous vous êtes converti? C'est quoi la conversion?
Est-ce que vous avez été convaincu de péché ? Il me dit, mais qu'est-ce que c'est ça, la conviction de péché ? Mais lui, il était sûr que Jésus était dans sa vie. Il ne savait même pas ce que c'était la repentance, la conversion et une conviction de péché. Une chose est sûre, lorsque quelqu'un prend le baptême, c'est qu'il a été profondément convaincu de péché et qu'il faut qu'il règle cette affaire s'il ne veut pas aller en enfer. Il faut qu'il demande pardon de tout son cœur à Jésus-Christ. Il faut qu'il réalise que sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon. Et souvent, nous les pasteurs, nous avons été très légers. On a baptisé des gens parce qu'ils demandaient le baptême. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dire, est-ce que Jésus est dans votre barque ? Est-ce que Jésus est dans votre vie ? À n'importe quel moment, il saura intervenir. Vous inquiétez pas, si Jésus est avec vous, ça m'étonnerait que la barque, elle coule. Vous traverserez le lac, il fait la largeur qu'il fait. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez dire, moi je veux l'invoquer. Oui, ma foi, elle n'est peut-être pas la plus grande. C'est vrai que cette histoire, elle fait réfléchir, parce que leur foi était à ce moment-là, elle était perturbée. Comment n'avez-vous point de foi ? Pourquoi avez-vous si peur ? En tous les cas, ça n'a pas empêché Jésus d'intervenir. Même si leur prière était très, très, très légère, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Moi, je me suis posé souvent la question, est-ce que c'était une prière ou pas ? J'en sais rien. Ils l'ont réveillé, c'était comme ça. Ce soir, est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie ? Je ne sais pas ce que tu vas me demander. Ils sont traversés, ils ont obéi. Ils ont obéi. Tu me demandes quoi, Seigneur ? De me repentir ? Si je veux aller au ciel ? Si je ne veux pas aller en enfer ? Eh bien oui, parce que sans la repentance, c'est écrit, vous périrez tous. Sans la repentance, personne ne peut être sauvé. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la repentance. Et la repentance amène une vraie conversion, et la conversion amène le désir de prendre le baptême. Ne vous imaginez pas que le baptême vous sauvera. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, parce qu'il croit que Jésus-Christ est mort et qu'il a fait la paix avec lui. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, eh bien, il accepte de prendre le baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement merveilleux d'avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur. Donc, un grand tourbillon. Je ne sais pas si vous êtes dans le tourbillon ce soir. Je ne sais pas. Mais ça termine. Il est dit qu'il y eut un grand calme. Merci Seigneur. Pour nos vies lorsqu'elles sont dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il eut un grand calme et ils étaient quand même étonnés. Ils savaient bien que Jésus était le Fils de Dieu, mais ils ont dit quand même, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Est-ce que vous savez que tout est sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ ? Tout ! Même les moineaux. Il n'y en a pas un qui tombe sans que Dieu ne le veuille. Tout est sous le contrôle de Dieu. Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Tout. Nous, ça nous dépasse. C'est pour ça que d'ailleurs, Jésus s'appelle le Tout-Puissant. Tout-Puissant, ça veut dire qu'il contrôle tout. Il sait tout. Il peut tout. Et si vous lui dites, Seigneur, moi, ma foi, ce soir, elle n'est pas grande. Mais je sais que tu ne dors pas. Je sais que tu vas t'occuper de moi. Oui, je suis dans le tourbillon par rapport à la santé, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, par rapport à mon mari. Je suis dans un tourbillon, mais Seigneur, moi je décide de te confier le gouvernail. Conduis-moi, que je meure dans un mois, ou dans un an, ou dans 20 ans. Qu'est-ce que ça vous fait ? Si on vous disait, vous allez mourir demain, qu'est-ce que ça vous ferait au fait ? Qu'est-ce que ça vous dirait ? Qu'est-ce que vous diriez si on vous disait, tu vas mourir demain ? Ou si tu vas mourir dans 20 ans ? Qu'est-ce que vous préférez ? Sérieusement, vous allez me dire, tu as des questions bêtes, mais d'accord, mais c'est pas grave qu'on meure demain ou dans 20 ans. Ce qui est important, c'est qu'on soit prêt. Que quand on parte du bon côté du rivage. Alléluia, on va prier notre Seigneur. Comme l'on fait, même si l'on fait maladroitement, le Seigneur les a secourus. Peut-être que vous priez maladroitement, peut-être que vous priez avec pas beaucoup de foi. Mais on va demander au Seigneur qu'il nous accorde vraiment cette faveur. Parce que si Jésus est dans votre barque, vous êtes à l'abri de la colère. Et la colère, elle vient sur la terre. Vous le savez, le monde dans lequel on est, la colère se prépare. Et pourtant, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si Jésus est dans votre barque, la colère, l'enfer, le mal, le jugement ne vous atteindront pas. Notre Dieu, combien nous aimons ces histoires où nous réalisons que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter du lendemain si tu es dans la vie d'un homme. Seigneur, nous te remercions parce qu'encore et toujours, tu invites les hommes à entrer dans l'arche afin qu'ils soient à l'abri du déluge qui vient sur la terre. Nous te remercions pour tout ce qui est écrit sur le paradis, sur cet endroit où nous nous retrouverons un jour avec tous ceux qui t'ont accepté comme sauveur. Nous te prions, Seigneur, pour que dans cette ville, tu convainques de péché, tu convainques de justice. Tu vois tous les chrétiens qui ont pris le baptême et qui ne se sont même pas convertis. C'est amène les hommes au calvaire afin qu'ils se repentent. Oh, ce que nous voulons, Seigneur, c'est voir une église, des églises, où ta gloire se manifestera. Oui, merci d'avoir une fois de plus prouvé ce soir, par ta parole, que tu donnes un grand calme là où les hommes s'approchent de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.